Baki l'émission, garde à la terre. Une cop des mailles sous la onde de Radio Albitzes, mais aussi diffusée sur les ondes de Radio Erdotan. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'entreprise Apiculture Romeo, une entreprise familiale et locale basée à Saint-Juéry dans le Tarn. Dans cette émission, vous entendrez l'interview de Anne Romeo, co-gérante de l'entreprise, et vous entendrez aussi des captations sonores réalisées lors des visites de l'atelier de fabrication de feuilles de cire gaufrée et de l'atelier de fabrication de ruches, des enregistrements réalisés lors des journées portes ouvertes en novembre 2022. On commence tout de suite avec l'interview de Anne Romeo qui revient sur les débuts de cette entreprise familiale et qui nous parle de sa passion pour l'abeille.
Et bonjour. Donc je suis revenue en 2005 à Saint-Juéry pour reprendre l'exploitation familiale qui avait été créée par mes parents en 94. On ne sait jamais puisque l'apiculture, on commence avec deux ruches et ça se développe au fil des années. Et du coup, ensuite, j'ai intégré la SARL en 2010. Mon papa travaillait déjà la cire d'abeille, avait commencé à travailler sur une chaîne. Donc moi, je suis arrivée pour faire plutôt ce que je ne faisais pas à l'exploitation, donc le travail du miel. On attaquait tout ce qui était pain d'épices, le miel en pot. Ce qui est une exploitation agricole est un peu plus limitée. Donc 2010, rentré dans la SARL. Mon mari est arrivé en fin 2010 parce qu'il me suivait depuis le début. Ça faisait déjà, mon Dieu que ça remonte, ça faisait déjà 12 ans qu'il suivait mon père, moi la reprise. De toute manière, c'est grâce à lui parce qu'il travaillait à côté que j'ai pu reprendre aussi. Et du coup, il a repris l'atelier cire. Donc, il en a fait une thèse à la cire. Après, il a des travaux de recherche sur la qualité des cires, ce qui fait la reconnaissance de l'atelier aujourd'hui. Puis après, pour gagner toujours en autonomie, puisque c'est un peu l'idée de la maison, on a créé une menuiserie en 2019 pour arriver aujourd'hui. Donc, on fabrique des ruches en bois, bien sûr, des coffrets, tout ce qui touche pour l'apiculture qui est en bois. Et puis, on crée petit à petit des partenaires autres types. On fabrique des caisses à vin pour la cave Le Cellier de Saint-Juéry. Voilà, avec toujours dans cette idée, nous être autonomes, du lien local entre entrepreneurs, entre agriculteurs. C'est un peu le fer de lance de la maison.
Très bien, on reviendra justement sur vos savoir-faire, mais j'aimerais qu'on rembobine un peu, qu'on reparle de cette histoire de famille. Tu te souviens, toi, la première fois où tu as rencontré cette passion, où tu t'es fait piquer pour cette passion pour l'abeille, où ton père t'a porté peut-être aller ouvrir les ruches?
Alors, au début, moi je suis la dernière de la fratrie, papa prenait les garçons aux abeilles. Et moi, j'étais plus tout ce qui était à la miellerie, préparation du matériel, la réflexion. J'allais avec la réflexion sur le matériel, pourquoi adapter, pourquoi on était plutôt là-dedans. On a toujours grandi avec des abeilles autour. Donc, savoir la première piqûre, je devais être toute petite parce que l'abeille s'était coincée entre mon pied et la claquette. Hein, ça, c'est pas top top. Mais après... la passion réellement, je l'ai réalisée quand je suis partie de chez mes parents et que mon père un jour m'a passé un coup de téléphone en disant j'arrête l'exploitation. Là, j'ai fait en une nuit un cheminement qui s'est fait et j'ai dit bon ben j'arrête ce que je fais et je reviens reprendre l'exploitation. Et c'est là où j'ai réalisé que pendant des années, tout ce que j'ai entendu, toutes les discussions, tout ce qu'il a monté, toutes les réunions où on allait avec lui ou qui revenait quand il discutait avec maman, en fait, on entend tout ça et l'un à l'autre, en fait, on l'a en tête. Donc, ça m'a permis. J'ai découvert, j'avais en fait. Plus qu'une vraie passion, j'ai toujours suivi mes parents. Et mon père rêvait d'avoir écrit Romeo, père et fille, sur le devant de son bâtiment. Mais c'est venu qu'après. Je pense que j'ai fait ma petite crise d'adolescence au départ et puis pour en revenir ensuite. Après, ma passion des abeilles, moi, elle est, on vit sur place. Mes enfants sont exactement dans le même schéma puisqu'on a 400 ruchettes autour de la maison. On fait l'élevage chez nous. Et après, on a un rucher transhumant, donc les ruches qui, elles, produisent du miel, qui vont naviguer dans tout le 81, puis le 31 et le 82. En suivant les miels qu'on veut faire, on va transhumer les ruches. Et puis surtout, c'est pas forcément que l'on veut faire, c'est qu'il y a des périodes dans le Tarn où il y a des choses qu'on ne peut pas produire, il n'y a pas de nectar, donc on va ailleurs chercher du nectar. C'est plutôt ça. Si on devait comparer la passion entre mon mari et moi, mon mari, lui, il aime produire du miel, transhumer, trouver des nouveaux emplacements, il y a dedans. Moi, c'est plus l'élevage, élever ses rennes, signer des colonies, arriver à avoir les bonnes souches sur lesquelles on peut repartir, sur lesquelles on va multiplier le cheptel et construire notre cheptel. Ça, c'est vraiment la passion de l'insecte, quoi.
Oui, puis quand on se penche sur la vie de cet insecte, la vie de l'abeille, aussi être passionné d'abeille, est-ce que c'est aussi être un défenseur de la nature, un défenseur de l'abeille?
Ah, ça oui. Oui, on peut pas lier qu'on a un grand pas pour l'écologie, pour l'abeille, bien sûr. C'est, de toute manière, c'est un sujet n'importe où, même quand on va manger chez des non-apiculteurs, ça finit toujours par parler abeilles ou parler de miel, parler de l'insecte. Nous, c'est pour ça qu'on a développé aussi au magasin, on a une grosse librairie pour sensibiliser les gens. Alors, pas forcément sur le côté négatif, on le sait tous que l'abeille est sentinelle de l'environnement. Mais il existe... Il y a plein de livres qui peuvent expliquer comment on peut changer les choses, ce soit la zone de butinage, ce soit la partie agricole, que ce soit au niveau administratif aussi, la sensibilisation aux enfants. L'abeille, ça pique, oui, mais ça fait pas peur. Bon, je ferais pas ça avec les araignées, par exemple. non, nous, on s'est parlé de cet insecte. C'est parce qu'on est passionné qu'on arrive à le transmettre, et c'est parce qu'on est convaincu qu'on est convaincant, en fait.
Ok, très bien, on le verra, il y a justement toute une partie pédagogique, on s'est rencontrés le week-end dernier à la Foire au Miel à Albi, on va aussi se croiser ce week-end à l'occasion des portes ouvertes où il y a plein d'animations proposées aux enfants, il y aura aussi les ateliers de cire et de fabrication de ruches qui seront ouverts, et j'imagine que depuis les années 90, aujourd'hui 2022, tu as vu aussi pas mal de changements sur la condition environnementale et justement la disparition de l'abeille avec plein de facteurs, que ce soit des facteurs naturels comme le frelon asiatique ou peut-être des facteurs un peu plus qui sont dus à l'industrie agricole comme les pesticides.
Oui, alors on a eu un grand pan qui a été 2000, l'arrivée des néoniques. C'est pour ça aussi que mon père a arrêté l'exploitation, puisqu'on avait 70% de pertes 2002, 2003, 2004. Hein, donc 2005, il a décidé d'arrêter. Parce qu'il fallait changer de méthode de travail, donc ça devenait une autre apiculture, faire de l'élevage, fallait nourrir les abeilles quand il y avait un manque, parce qu'en plus de cette pollution agricole-là, on a la zone de butinage qui s'est réduite, c'est-à-dire le gâteau, il devient de plus en plus petit, mais on est quand même assez nombreux, et à un moment donné, il n'y en a pas assez pour les abeilles. Donc, mon père, par exemple, on avait des emplacements, des ruchers, on appelle ça, où on mettait 48 ruches. On pouvait monter jusqu'à 64 quand on allait loin. Ben, petit à petit, en fait, on en met moins parce que ben, comme il y a moins à manger, on se dit qu'avec 24 ou 30 ruches, elles ont assez de nectar autour pour se nourrir. Après, on a eu le deuxième cap du changement climatique pur. Ça a été entre 2009 et 2011. Pour te donner une idée, Arnaud, en 2005, quand je suis revenue, on produisait en moyenne 100 kilos de miel à la ruche. Le dernier record, c'était 2020. Ça a été une très belle année. On a fait 47 kilos. On était super contents. 2021 et 2022, on tourne entre 28 et 34 kilos. Donc, on s'habitue à produire en moins. C'est pour ça qu'on fait des miels différents et qu'on va un peu plus loin. Parce qu'on a décidé depuis le départ, ça fait 17 ans du coup que j'ai repris, de tout vendre le miel en pot. Et donc, il faut avoir des miels différents.
Merci, donc on est toujours en compagnie d'Anne Romeo pour nous présenter cette entreprise locale, cette belle histoire de famille autour de cette passion de l'abeille. Aujourd'hui, donc un peu plus de 20 ans d'existence de cette entreprise, 25 ans, une entreprise qu'on trouve ici à Saint-Jury, mais je crois ailleurs. Tu peux nous la présenter aujourd'hui en quelques chiffres? Qu'est-ce que c'est? Combien d'employés?
Alors en fait, le siège social à Saint-Jury, donc on est 18 à Saint-Jury, et mon frère aîné est installé à Barbentane, juste à côté d'Avignon, et ils sont trois. Donc là-bas, c'est 22, pardon, le matériel pour faire de l'apiculture, tout le nécessaire, l'emballage, le pot vert, la miellerie, les ruches, tout comme ici. Du coup, donc 21 personnes, 25 ans d'existence. Voilà.
Toujours branché sur Radio Albigès et Radio Air d'Otan. Aujourd'hui, vous écoutez une émission consacrée à la découverte de l'entreprise Apiculture Romion, une entreprise locale et familiale basée à Saint-Juéry. Je vous propose maintenant d'écouter des captations sonores réalisées lors de la visite de l'atelier de fabrication de feuilles de cire gaufrées.
Ah, je vais t'expliquer ce qu'on fait ici quand même. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, ici, dans cet atelier, on transforme la cire d'abeille que nous amènent les apiculteurs en feuilles de cire gaufrées, c'est-à-dire qui sont les alvéoles préformées, qu'on va remettre dans les roues. Donc, alors, d'où vient la cire? Déjà, la cire, l'apiculteur va la récolter en même temps que son miel. Donc l'abeille va stocker le miel dans les alvéoles et quand il a un certain taux d'humidité, elle va mettre un bouchon de cire sur cette alvéole pour fermer le miel pour qu'il ne bouge plus. Et nous, quand on va vouloir extraire le miel, on va être obligé de couper ce bouchon de cire. Ça s'appelle la désoperculation. On va récupérer cette cire, on va la fondre et en faire des pains. Donc ces pains, après, nous, on va les retravailler. Donc il faut savoir que la cire, c'est un corps gras qui emprisonne toutes les molécules de l'environnement, toute la pollution qu'on va y retrouver. On va y retrouver la pollution de l'apiculteur, la pollution de l'environnement, à des taux très faibles, mais on la retrouve dedans. Et ici, on fait donc le lot personnalisé, c'est-à-dire que l'apiculteur, il va amener sa cire et il va repartir avec sa cire. Comme ça, ça évite la pollution d'un lot à l'autre et il retrouve tout le travail qu'il a fait l'année dans sa cire. Donc en fait, là, ce soir, une fois qu'on va avoir fini le gaufrage, on va nettoyer nos machines, on va nettoyer nos cuves et on va mettre nos blocs de cire dans la cuve pour les faire fondre toute la nuit pour les travailler le lendemain. Donc en fait, on a la cuve, elle a un fond conique vers le haut. Donc toute la nuit, quand la cire va fondre, les impuretés vont glisser le long de ce cône et vont se retrouver au fond de la cuve. Ce qui est noir, abeilles, tout ça, ça va rester en bas. Et nous, en fait, on a la sortie qui est un peu plus haute avec un filtre de bas. Et on va soutirer la cire par là, ce qui va nous faire une cire qui est déjà épurée, qui n'a pas d'impureté. Donc le matin, on attaque le gaufrage. Vous avez la cire qui sort à ce niveau-là. Elle tombe dans ce bac. Dans ce bac, il y a déjà de l'eau. On a mis de l'eau chaude à 80 degrés. La cire, c'est comme de l'huile, c'est plus léger que l'eau, donc ça flotte. Donc vous avez la cire, elle, qui va rester en surface. Ça fond à 68 degrés. En dessous, ça redevient dur. C'est comme les bougies sur les gâteaux d'anniversaire. Quand vous soufflez les couleurs, elles redeviennent dures après. Donc là, on va avoir ce rouleau qui va venir lécher la surface de la cire. Et lui, il est refroidi. Et donc, avec la différence de température, la cire vient se figer dessus. C'est comme ça qu'on va la récupérer. À ce niveau-là, à l'intérieur de la filière, vous avez un couteau qui va venir racler la cire qu'il y a sur le rouleau. Vous avez une chambre vide à l'intérieur avec une circulation d'eau chaude et la cire s'accumule. Et quand la chambre est pleine, le rouleau lui continue et du coup il expulse la cire. Donc la circulation d'eau chaude, ça permet de la garder par contre malléable. On est à 38 degrés. Donc la cire, elle est comme de la pâte à modeler.
Apparemment, vous connaissez un rayon assez.
Ben, c'est le cas de le dire, ça. Oui, assez, oui. Ben, c'est mon métier, donc on fait des recherches depuis une dizaine d'années avec le CNRS de Toulouse, avec l'Institut Polytechnique pour comprendre la matière, comment la travailler, ce qui se passe, essayer d'avoir un produit le plus propre et le plus simple possible à remettre dans la ruche.
Et au niveau des pollutions qu'on y retrouve dedans, ça a évolué
Alors, on retrouve beaucoup de pollution environnementale. Bon, il y en a toujours eu dans la cire, mais on retrouve des produits phyto, on retrouve des traitements d'apiculteurs. Et en fait, c'est l'accumulation et le nombre de molécules qui augmentent en fait, au fur et à mesure des années, quoi.
Et là, la cire, c'est de la cire bio ou normale?
Non, là, c'est que des lots. Pour le moment, là, ce sont que des lots personnalisés d'apiculteurs. Ils sont pour le moment tous en conventionnel. Mais le bio, c'est le même système. On applique en fait le même protocole de nettoyage et le même protocole de traitement, que ce soit bio ou conventionnel, pour garder toujours une qualité de cire optimum.
Ok. Et vous savez à l'année combien vous traitez de kilos de cire?
On traite à l'année entre 120 et 130 tonnes au moins, dans ces eaux-là.
Ok. Bon, Bon, ben merci.
Avec plaisir.
L'idée de départ, en fait, c'est que 90% des ruches vendues en France arrivent ou des pays de l'Est ou du Portugal. Que l'apiculture a toujours veut des petites choses sur mesure. L'apiculteur aime bien avoir son petit détail et tout ça, c'était pas possible à l'étranger. Puis ça nous convenait pas. Donc en 2019, on a eu l'occasion chez notre voisin à tout faire puisqu'on est deux sur cette zone à s'être installés. Donc c'est les anciennes aciéries au saut du Tarn. Ça parle à beaucoup de monde sur l'Albigeois. Maurice avait des bâtiments de libre. On a pu avoir un lot de machines à bois qu'on a pu développer. Puis ça a permis de lancer. Puis il a fallu investir dans une vraie quatre faces, dans des vraies machines. Mais ça s'est fait en 3 ans. Donc aujourd'hui, ils sont 9 à l'atelier et on a monté une super équipe. Ouais.
Combien de ruches vous fabriquez à l'année?
Waouh, ça dépend des années, mais la plupart. Ben, on n'a peut-être pas assez de recul pour avoir des moyennes. On peut dire que sur la saison 2021-2022, on a passé les 6000 ruches. Pareil, en fait, nos fournisseurs de bois, on travaille avec 2 scieries familiales qui sont dans les Landes. Le contreplaqué est français, donc ça, il n'y a plus qu'une maison. On était très contents qu'ils acceptent de travailler avec nous, puisqu'on faisait des petits volumes au départ. Et les apiculteurs sont sensibles à tout ça. Après, c'est vrai qu'au niveau prix, on est quand même un peu cher par rapport à ce qui arrive de l'étranger. Donc, mais on a assez d'apiculteurs sensibles pour en vivre.
Justement, vous savez aussi, enfin, je vais te demander encore un chiffre, combien d'apiculteurs viennent se servir chez vous et profitent de vos services?
Alors, les deux magasins confondus, je saurais pas le dire. C'est tellement vaste parce qu'en fait, il y a l'apiculteur amateur et l'apiculteur professionnel. Professionnel, à la cire, on offre pour des gens de toute la France. Hein. On a des Belges aussi qui viennent chez nous. On a 2 revendeurs en Irlande et au Canada. Donc pareil, qui groupent la cire, nous l'envoient, on la transforme et elle repart en container. Te dire combien on a de pros. Je pense qu'à dernière stat, je pense qu'on avait 4000 pros et amateurs qui viennent chez nous. Après, il vaut mieux avoir 400 amateurs qui détiennent 2 ruches. Tu vois qu'un apiculteur qui détienne 400 ruches, la pollinisation, la zone est mieux couverte en fait. Donc nous, c'est ce qu'on prend. Quand les gens viennent chez nous pour acheter une ruche parce qu'ils sont intéressés, on les renvoie sur les 2 ruches écoles qu'il y a dans le Tarn. Enfin, il y en a 3 même, pardon. Il y en a un à Castres, un à Albi et un à Réalmont, avec qui on est partenaire. Chacun son métier. Eux, ils sont très bons pédagogiquement à expliquer comment avoir une ruche au fond du jardin. Nous, on explique le matériel. Par rapport à Internet, on amène un service parce que les gens sont tentés d'acheter. On peut customiser sa ruche, on peut faire plein de choses. À la base, il faut une ruche, des abeilles. Et quand on maîtrise ça, après, on se développe. Donc, on amène les gens à cette réflexion.
Ouais. Et comment alors comment vous fonctionnez au niveau collectif? Je sais que par exemple la foire au miel du week-end dernier était organisée par l'abeille citoyenne, mais qu'après l'abeille tarnaise, mais qu'après il y a d'autres associations comme l'abeille citoyenne ou d'autres collectifs. Vous créez des partenariats avec les autres structures et le monde associatif?
Oui, on essaye. Après, en général, on vient nous voir. On a fait, par exemple, on a fait la fête de l'eau avec la mairie de Saint-Jury, où il y avait tous les représentants environnementaux. On ne s'arrête pas forcément qu'à l'abeille, c'est dès que ça touche l'environnement. On participe au niveau de l'abeille, il y a l'abeille tarnaise, il y a le syndicat apicole du Tarn, donc on a 2 syndicats dans le Tarn qui font des manifestations, notamment les foires au miel, comme tu le cites. Hein. L'abeille citoyenne, on leur fournit du matériel, on est à l'écoute, mais il y en a plein d'autres, il y en a dans plein de départements. En fait, en général, on nous sollicite, oui.
Ouais. Et est-ce que vous essayez aussi de peser en faveur de la défense de l'abeille, de la lutte contre les néonicotinoïdes
ou... Alors, sur la cire d'abeille, mon mari est le référent au ministère de l'Agriculture, donc voilà, ça c'est son job, ouais.
Et comment ça avance alors? Parce que dernièrement, qu'on avait eu justement le syndicat, je crois, d'Occitanie, par rapport à la réintroduction des néonicotinoïdes, ça avance d'un côté une fois, puis ça recule 2 fois, c'est très compliqué.
C'est très français-européen, ça, mais en fait, on a un petit problème quand même dans la profession, c'est qu'il y a, on est 2000 pros en France, hein. Et pour 6 ou 7 syndicats et représentants. Donc du coup, on est trop dispersés. Il faudrait qu'on arrive à être plus unis. On y arrive quand on a des pertes. Nous, on a eu des très grosses pertes en 2010 et 2020. Mais il y a du soutien. Je pense quand même qu'on est... Oui, il y a une strate qui est très différente entre les ministères là-haut et ce qui se passe sur le terrain et les élus locaux qui sont parfois plus impliqués. Savoir dans quel sens on va, ce serait difficile d'avoir un avis. Après, ça relève des syndicats de se battre et de défendre ça. Nous, on est plus sur la promotion, d'avoir des ruches pour la pollinisation. Pour l'instant, on n'avance pas. On ne va pas se cacher là. Quand on voit ce qu'ils arrivent à faire à la COP, je ne sais même plus à quel chiffre on est, tellement que ça n'avance plus. On le suit même pas. C'est ça qui est dramatique, quoi. Nous, on suit plus des actions syndicales. Ça, c'est notre. Ils ont besoin d'aide. On a la possibilité de diffuser. Avec le magasin, on peut sensibiliser. On est plus ouvert qu'eux. On a plus de plage horaire pour promouvoir. Donc, ça, c'est notre travail à nous.
Notamment avec les consommateurs et via la vente de miel. Oui. On sait que les quantités de miel ont beaucoup chuté depuis de nombreuses années. Vous avez la chance de faire du miel entre guillemets local et puis surtout labellisé. Je vois que sur vos pots de miel, on peut retrouver le logo de, je crois, Nature et Progrès.
Et AB.
Oui.
Donc on est en AB depuis 1994 et Nature et Progrès depuis 2010. Oui, pour nous, en fait, ça nous représente notre travail. Il y a plusieurs formes d'apiculture, comme il y a plusieurs formes d'agriculture. Donc, nous, on se retrouve dans ces deux labels. À Nature et Progrès, ce qui est plus qu'en bio, qu'en AB, c'est la partie sociale de la ferme qui est prise en compte, hein, qu'on ne retrouve pas dans le logo AB, où c'est juste des cases à cocher.
Voilà, c'est le lien avec le consommateur qui est au final une défense directe et un moyen d'expliquer un peu justement comment
après,
ça se passe.
Il y a des consommateurs qui veulent manger local et qui ne se posent pas forcément plus de questions sur l'environnement. Et il y a des consommateurs qui, on va ça quand même s'adapter aux gens. Après, il y a quand même beaucoup d'affiches pour les sensibiliser. Il y a des gens qui ne bougeront pas d'un iota, mais on a petit à petit, avec les années, comme ils reviennent chercher du miel, ça, ils sont convaincus du local. On arrive à les amener sur une vision plus environnementale et globale.
Écoutons maintenant des captations sonores réalisées à l'occasion de la visite des ateliers de fabrication de ruches.
Je m'appelle Lenny et mon métier c'est menuisier, spécialisé dans l'apiculture du coup. En fait, quelques éléments qui n'ont rien à voir avec l'apiculture là. Par exemple, on travaille avec un cellier qui est à Saint-Jury et on fait des cassavés. Du coup, quand les clients passent commande, au bureau, tous les documents sont traités et tout ce qui est partie bois, ça arrive ici, partie métal, ça arrive ici. S'il y a de la cire, ça reste là-haut. S'il y a les fournitures, ça reste là-haut. Et nous, quand on arrive, il y a notre chef d'équipe, Olivier, qui nous met au tableau tous les ordres de fabrication. En cours.
D'accord.
En cours ou à commencer. Avec les quantités. Celui-là, en plus, on l'a doublé. Il y en a 300, mais en vrai, le client veut 600. Mais quand il y a des gros ordres de fabrication comme ça, on les coupe en deux. Sinon, à fabriquer, ça devient lassant et beaucoup trop répétitif. Du coup.
Parce qu'à la journée, vous faites quand même que des russes, vous emmenez que des coups.
En fait, là, vous voyez, quand il y a deux papiers, c'est que ça n'a pas été commencé. Il y a un papier qui reste toujours ici et l'autre qu'on prend dans l'atelier. Là, ça veut dire que qui est en cours, oula, attention, qui est en cours, il y a des nourrisseurs, des corps, des ruchettes fond fixe et des os. Tout est en cours. Et une fois que ce matin on a fini, on avait des plateaux qui ont été finis ce matin. Là, voilà, on fait en fonction de la demande, évidemment. Mais par exemple, l'été, le printemps, l'été, on n'a pas de demande. Les apiculteurs, ils sont dans leur ruche,
si des os,
ils sont dans leur abeille. Certains apiculteurs demandent des os, si c'est pas arrivé cette année, c'est pas arrivé. Parce que l'année n'a pas été bonne, et du coup, chaque apiculteur était largement équipé pour ce qu'il avait à faire. Étant donné que malheureusement, il y a eu trop de soleil, les abeilles sont pas sorties, les fleurs sont pas fleuries. Ouais, elles sont pas sorties non plus. Du coup, cette année, on n'a pas eu de demande urgente. En plein milieu de l'été, donc on a fait vraiment que du stock. Par contre, maintenant on commence à faire des commandes, et dans les commandes, il y a quand même beaucoup de sur-mesure à gérer. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont fait faire leur ruche il y a 30 ou 40 ans par le menuisier du coin qui n'a pas respecté les... Enfin, n'a pas respecté, il n'y a pas de consigne en soi, mais il y a deux gabarits principaux qui existent, ce sont le Dadan et le Langstroth. Et il y a à peu près autant en France de Dadan que de Langstroth, mais suivant les régions, il y en a un qui domine l'autre à chaque fois. Ici, c'est vraiment le Dadan. Et on a notre magasin qui est à Barbantane, à côté d'Avignon. Et là, c'est le Langstroth qui...
En Corse aussi, oui.
Qui domine le Langstroth plutôt Langstroth en Corse.
Ah ouais. Je te prends si tu peux.
C'est, voilà, et suivant les régions, il y a... Je sais pas pourquoi, alors que... La différence d'un corps d'Adam et d'un corps Langstroth, c'est la longueur. Le corps Langstroth fait 10 mm de plus que le corps d'Adam. Fabriquer, je sais pas, mais 500 000 par an. C'est parce que pour les apiculteurs, c'est considéré comme un consommable, les cadres. Il y a chaque année, dans un corps du cadre, il y en a deux ou trois qui partent à la poubelle et ils les changent. C'est des choses qui changent très rapidement. Et la main-d'œuvre pour les monter et les filer est bien plus supérieure au prix du cadre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que Anne et Thomas, il y a Olivier, Anne et Thomas, donc ce sont nos patrons. Olivier, notre chef d'atelier. Tout le monde a plus ou moins travaillé. Le père d'Anne était travaillé pendant très longtemps à la ZI de Carmaux. Et donc, on est en partenariat avec eux. Et ce sont les résidents de la ZI qui les montent et qui les filent. Pour savoir faire du boulot. Et ici, ça fait de la main-d'œuvre qui est quand même beaucoup moins chère. Donc, on peut rester dans nos frais et faire du cadre local. Alors qu'en France, vous n'en verrez pas beaucoup à des entreprises qui font ça. Donc, on a trouvé cette solution-là. Donc, le cadre, on les fait. On les fait par 2000 à peu près. Nous, on façonne les 4 morceaux de bois. On l'envoie là-bas et environ un mois et demi après, ils nous renvoient les 2000 cadres prêts.
Parce que ça, c'est mis à la main, tout le fil là, est mis à la main quand même.
Tout est mis à la main. Ah ouais. Nous, on envoie les pièces juste finies.
Oui, oui, oui.
Juste façonnées, même les trous, c'est eux qui les font. Ils se sont équipés, ça a mis un moment à se mettre en place, ils sont vachement équipés. Ah ouais, c'est des machines, ils les mettent. Ils les mettent, je sais pas s'il faut, ils en mettent 10.
Voilà, oui.
Ça descend, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Et bien, ils ont 60 forêts sur une machine.
C'est bien.
Ça fait tout. Ça, c'est pas les résidents qui le font à la main. Les résidents, ce qu'ils font à la main, c'est vraiment le montage, le collage, l'agrafage. Que c'est obligé, comme nous on fait pour tout le reste d'ailleurs. Et après, le filage. Voilà.
Merci beaucoup Anne d'avoir pris le temps voilà, de nous parler de ta passion, de votre entreprise familiale, locale. Voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation, de belles journées portes ouvertes. Peut-être pour terminer, un coup de cœur sur je sais pas, un miel ou peut-être les livres pour les enfants.
Alors le coup de cœur sur le miel cette année, ça a été le trèfle blanc parce qu'on s'y attendait pas. On a extrait ce miel, on a extrait l'acacia, il est arrivé derrière. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est un goût sucré, un petit bonbon. C'est vrai qu'il fait une, il plaît énormément. Ce matin, on a pu le faire découvrir à beaucoup de gens et tout le monde a adhéré. Et dans les livres, en ce moment, on est très sensible à un livre qui s'appelle À quoi pensent nos abeilles ? Et c'est un livre qui, en fait, on est, c'est la vulgarisation de beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'insecte. Et donc, on est vraiment dans les yeux d'une abeille, la manière dont elle va aller choisir une fleur, la manière dont elle vole, la manière dont elle va transmettre une info à ses sœurs dans la ruche. Et on trouve ça, il est passionnant.
Thank you.
et Baki Bravemund et toute son brand 4 sous la zondos de Radio Albitzes. Vous venez d'écouter une émission consacrée à la découverte de l'entreprise Apiculture Romeo, une entreprise locale et familiale installée à Saint-Juéry. Merci à Anne Romeo d'avoir accepté l'interview. Merci aussi à tous les employés que nous avons rencontrés lors de ces journées portes ouvertes qui se sont déroulées en novembre 2022, et notamment à Thomas et Lénie dont vous avez entendu les voix lors de ces visites. Cette émission est à retrouver en podcast en passant par notre site radioalbiges.com. C'était l'émission Gardarem la Terre sur les ondes de Radio Albiges et Radio Air d'Otan.